Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Comment se comporter face au péché de quelqu'un d'autre que soi ? Je parle par rapport à l'Église. Je parle par rapport à la communauté, à la famille que nous sommes. Premièrement, si le péché n'a pas été commis contre toi, prie pour ton frère. Mais 1 Jean 5, verset 16. Lisons ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Moi, ce que je veux que vous souligniez, si ce sont vos Bibles, c'est le premier verbe. Si quelqu'un, s'il vous plaît, si quelqu'un... Ok, si quelqu'un voit son frère, écoute-moi. Ça veut dire que ce qui te rend éligible à même t'approcher de Dieu pour parler à Dieu de quelqu'un, c'est si tu as vu. Et le problème de plusieurs d'entre vous, c'est que non seulement vous ne voyez pas, ça veut dire que vous n'avez pas vu, on vous a dit. Et l'un des problèmes qu'on a dans le fait de vivre en famille, c'est qu'on émet des jugements sur des choses dites, sans jamais avoir eu l'autre version. En tant qu'évêque, je vais vous dire la vérité, les gens mentent. Toi-même là, tu mens. Je sais, tu mens. Pourquoi ? Parce que quand tu racontes une histoire, tu ne racontes pas les faits. Tu racontes le ressenti des faits, la perception des faits. Tu as du mal à rester sur les faits. Tu vas raconter les interprétations. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Et la plupart d'entre vous, vous ne racontez que ce qu'on vous a dit. Et quand on vous a dit le téléphone arabe, vous dites qu'on vous a dit. Mais vous dites comme si vous aviez vu. J'ai vu le frère et la sœur dans le noir. Ok, la question que je lui ai posée, c'est tu les as vus où? Dans le noir? Oui, tu es sûr qu'il faisait noir? Oui, s'il faisait noir, comment les as-tu vus? En fait, il y avait un lampadaire. D'accord, mais le lampadaire éclairait qui? Je ne suis pas trop sûr, mais j'ai l'impression que j'avais vu que finalement c'était son corps. Donc tu n'es pas sûr d'avoir vu? Non. Et en fait, ce que je dis par rapport à l'église, c'est vrai en famille. C'est vrai dans vos lieux de travail. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si quelqu'un voit, la première chose que j'ai dite, si le péché n'a pas été commis contre toi, prie pour ton frère. Jacques 5, 16. Je reste sur le premier point et je vais avancer. Jacques 5, 16. 1 Jean 5, 16, j'ai lu. Maintenant, Jacques 5, 16. Lisons 1, 2, 3. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez la prière fervente du juste. Ok. L'Église doit comprendre que si Dieu nous permet d'avoir accès à la vie des uns et des autres, au péché des uns et des autres, notre première responsabilité est de prier les uns pour les autres. Voici ce que j'ai écrit dans mes notes et je vais le lire comme je l'ai écrit à cause du temps. Je veux vous faire remarquer que si quelqu'un ne vient pas vers vous pour vous confesser son péché, mais que vous en entendez parler, sauf relation de proximité, votre première responsabilité est de prier pour cette personne et non de jouer le rôle de policier dans sa vie. Je viens te dire, tel a fait, j'ai été blessé par tel. Si tu n'as pas de relation de proximité avec la personne dont il est question, ne va pas lui parler. Prie pour elle. Ce que je dis est clair. Je crois qu'il est impossible de véritablement être une famille sans découvrir dans la durée les mauvais comportements les uns des autres. En fait, je crois que s'il y a véritablement proximité, il y aura péché, bien plus, découverte de péché. Normalement, quand nous péchons, en dehors de se présenter devant Dieu, notre premier réflexe devrait être de trouver quelqu'un dans la famille pour nous confesser, pour nous décharger, pour nous vider. Mais aujourd'hui, le manque de maturité met un frein à cette atmosphère de confiance qui est nécessaire à la confession. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Nous devrions pouvoir nous confesser les uns aux autres sans avoir peur que ce que nous avons confessé soit un jour utilisé contre nous. À cause du temps, parce que moi-même je gère mon temps. Je veux ici émettre une réserve et dire des choses qui me paraissent importantes. Il y a un texte que les gens utilisent très mal, interprètent très mal, Jérémie 17. Mets le verset 5, s'il te plaît. Mashkile bradé. Quand je parle comme ça, il n'y a pas beaucoup d'offrandes. Alors que je dis des choses très vraies, puissantes. Lisons, s'il vous plaît, Jérémie 17, 5. Ainsi parle, maudit soit qui se confie dans et qui prend la chair, qui détourne son cœur. Alors, les gens utilisent ce verset pour dire, vous ne devez pas vous confier dans les hommes. Déjà, c'est une mauvaise interprétation du texte. Premièrement, ce que le texte dit, c'est que personne ne doit prendre la place de Dieu dans ton cœur. La deuxième chose que ce texte dit, et qui n'est pas vue dans la version française, mais dans la version originale, le premier homme utilisé, maudit soit l'homme, c'est le mot Geber, G-E-B-E-R, en hébreu. Ce mot est utilisé pour parler de guerrier. Okay? Le deuxième mot homme, qui en français c'est la même chose, en hébreu c'est le mot Adam, A-D-A-M. Donc voici une meilleure traduction. Maudit soit le guerrier qui se confie dans l'homme lambda. Maudit soit le guerrier qui se confie dans l'homme naturel. Voici ce que ça veut dire de manière simple. On ne se confie pas vers le bas. Le simple homme. Un homme de guerre ne peut pas confier ses faiblesses, ses fardeaux à un homme qui ne se bat pas. À un simple homme. On ne se confie pas vers le bas. On se confie à quelqu'un, d'abord un homme de guerre, et on se confie vers le haut. Vous me regardez bizarrement. De manière plus simple, normalement, on devrait pouvoir se confesser nos péchés les uns les autres. Sauf que ce qui rend difficile cette action, premièrement, c'est le manque de confiance et le manque de maturité dans l'Église, dans la société actuelle. En vérité, tu vas dire à quelqu'un, voici ce que j'ai fait, voici comment je me suis comporté. Cette personne, le jour où vous n'êtes plus amis, le jour où vous êtes en froid, va utiliser ça pour te nuire. Donc ça, ça rend difficile. Okay. Mais deuxièmement, normalement, la confession demande que tu sois capable de te décharger. Donc, il faut que la personne qui écoute tes paroles soit capable de porter le poids. Tous les secrets ont un poids. Oh Dieu, vous êtes bizarre. Jean 20, 21 à 23. Jean 20, 21 à 23. Lisons s'il vous plaît, 1, 2, 3. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père. Allez-y, la suite. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront, et ceux à qui. Il existe donc des hommes qui doivent être capables de prendre les péchés, de les pardonner. Vous m'entendez? Il existe des gens qui, lorsqu'ils retiennent les péchés sont retenus. Quand la femme, finalement, les accusateurs sont partis, elle est seule, Jésus lui dit, « Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle dit, « Non, Seigneur. » Il dit, « Va, je ne te condamne pas moi non plus, va et ne pêche plus. » Ça veut dire que cette femme est rendue capable de continuer à vivre parce que quelqu'un a dit, « Je ne te condamne pas. » Judas se pend parce que en arrivant dans le temple, il est repentant, il donne, il rend l'argent, mais ceux qui devraient le libérer lui disent, l'argent va périr avec toi. Pierre est restauré parce que quoi qu'ayant renié Jésus trois fois, ses yeux rencontrent les yeux du Seigneur. Pierre est hors de la synagogue. Il est autour d'un feu. Mais parce qu'il rencontre le bon regard, Pierre ne meurt pas. Judas est dans le temple. Mais parce qu'il rencontre les mauvaises personnes, Judas va se pendre. Dans le temple, ça veut dire qu'il y a dans l'église des gens qui sont capables de tuer avec les yeux. Dans l'église, des gens qui sont capables de dire « Tu as péché, meurs dans ton péché ». Et dehors, il y a des gens qui sont capables de rendre la liberté aux pécheurs. C'est une honte que les gens soient davantage pardonnés dehors que dedans. C'est problématique que les gens soient obligés de quitter l'église pour aller être restaurés, pour aller être relevés, pour recommencer à vivre, pour recommencer à marcher, pour recommencer. C'est problématique si l'église, qui est l'appui et la colonne de la vérité, devient un lieu où les gens meurent à cause de leurs péchés. Un guerrier ne doit pas se confier à quelqu'un qui ne fait pas la guerre. J'ai écrit, un pasteur ne doit pas se confier à son fidèle. Un directeur ne doit pas se confier à son employé, pas sur ces fautes-là. Plusieurs ont vu leur destin être écourté parce qu'ils se sont confiés aux mauvaises personnes. Moi, je le dis, je l'ai dit, je le redis ce matin. Vous savez, l'une des choses qui vous rend, qui vous empêche d'être libre, c'est parce que vous mentez à vos pasteurs. Moi, je considère qu'il y a trois groupes d'individus auxquels tu ne peux pas mentir si tu veux t'en sortir. On ne ment pas à son docteur. Quelle que soit la question désobligeante, quelle que soit, c'est-à-dire le docteur ne peut pas te soigner si tu mens. On ne ment pas à son avocat. On ne ment pas à son pasteur. On ne ment pas à son évêque. On ne ment pas à son père. Il est là. Moi, j'ai fait le choix, parce que je suis imparfait, j'ai fait le choix de ne pas mentir à mon père. C'est un choix. Ça veut dire que si mon père me pose une question, quel que soit, tu as dit quelque chose de fort, mais c'est parce que ce sont nos choses, je ne veux pas leur dire. Mais, je ne dis pas non. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je suis sous couverture parce que j'ai fait le choix de me placer sous quelqu'un. Quand je suis en difficulté, quelle que soit la difficulté, je peux lui dire à l'aide. Il me pose des questions, je réponds aux questions. Je ne mens pas à mon père. Parce que si je lui mens, c'est que je suis sorti de sa couverture. Si je lui mens, c'est que je suis sorti de sa protection. Et si lui, il ne me couvre pas, qui peut me couvrir? Vous ne pouvez pas me couvrir. Vous ne pouvez pas m'aider à me relever. La Bible dit malheur à l'homme seul. S'il tombe, qui le relève? Écoute, quand tu es par terre, la personne qui doit te relever doit être debout. Ça veut dire qu'elle doit te regarder comme ça. Tu ne peux pas. La personne qui est par terre avec toi ne peut pas t'aider à te relever. Vous m'entendez ou vous m'entendez? Mais vous, vous faites le choix de ne pas dire la vérité à la personne qui est supposée vous couvrir. Vous relevez, vous nettoyez. Mais ça veut dire que tu es ton propre chef. Ça veut dire que tu es orphelin. Parfois, quelqu'un vient me voir. Mon temps est bientôt fini. Quelqu'un vient me voir dans mon bureau. Je me rappelle. Elle vient me raconter qu'elle est, elle tourne en rond. Les femmes. Elle me raconte. Et puis, pendant qu'elle me parle, j'ai un arrière-goût. J'ai pas la paix. Il y a quelque chose. Je sens qu'on me ment. Je pose la question. Yeux dans yeux. C'est pas moi qui l'ai appelée. Elle est venue elle-même me voir. Les yeux dans les yeux, je lui pose la question, elle me ment, et puis mes yeux s'ouvrent. Et là, je vois. Et quand je vois, voilà comment aujourd'hui je fonctionne. Je vous dis ça, oui, je vous dis ça. Je la conseille selon son mensonge. C'est-à-dire, je sais qu'elle me ment, et je sais que pour sortir de là, voilà le conseil qu'il faut lui donner. Mais sauf que, je sais qu'elle vient de me mentir. Ah bon, c'est ça? Oh non, mais donc fais comme ça. Parce que, je sais qu'elle me ment. Elle va tourner en rond. Je sais. Elle sort de mon bureau. Merci évêque. Oh, de rien ma fille. Va en paix. Que Dieu te bénisse. Dans mon cœur, on se reverra. Deuxièmement, si le péché a été commis contre toi, alors il y a une façon de le gérer qui nous est propre en tant que famille. Si le péché a été commis contre toi, il y a une façon de le gérer qui nous est propre en tant que famille. Mets 1 Corinthiens 6, s'il te plaît, versets 1 à 8. Je vous donne le contexte rapidement. On va lire ce texte. Ensuite, je vous donne quelques points. Et... s'il vous plaît, lisons ensemble. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? La suite. Que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Verset 4. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge? Verset 5. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères. Alors l'apôtre Paul met un cadre et il dit normalement dans la famille qui est la nôtre, quand il y a des problèmes, quand il y a une crise, quand on a des différends les uns avec les autres, il y a une façon de gérer. Premièrement, on ne va pas laver le linge sale dehors. Dites amen.
Amen.
À aucun moment on va régler un problème avec son frère qui prie dans son église sur un statut WhatsApp. À aucun moment tu ne prends Facebook. À aucun moment tu ne vas devant les infidèles pour parler de ton frère à l'église. Je vais mettre ta sœur aussi parce que faut pas qu'on croit qu'il y a que les frères. Ton frère et ta sœur. À aucun moment tu vas chez le policier pour dire vraiment, oh, le frère de l'église m'a volé. À aucun moment. Vous m'entendez? C'est dans la Bible, mais tu vois comment ils réagissent. Ils sont pas d'accord. C'est écrit. L'évêque général a dit, allez chiffrer l'apôtre Paul. Donc, voici ce que la Bible dit. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, normalement, si tu as un différend avec un frère, il dit, tu dois trouver dans l'église un sage. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous entendre, tu dois, il y a dans l'église quand même, il y a quand même des sages qui sont capables de gérer. Et il pousse, il va très loin. Il dit, normalement, c'est déjà une faute que d'emmener son frère dans un procès, sa sœur dans un procès. Il dit normalement, parce qu'on est de la famille, il y a des choses qu'on doit laisser passer. Quelqu'un vient me voir et me dit, pasteur, à l'époque j'étais pasteur, pasteur, prête-moi de l'argent, je veux commencer une affaire. À l'époque, tu n'avais pas encore parlé. J'ai à cœur d'aider mon frère, j'ai à cœur d'aider mon fidèle, donc je prends mon propre argent, je lui prête. Il me dit, il va me rendre. Ok, pas de problème. Plus tard, il disparaît. Quitte l'église. Non, histoire vraie. La personne, le frère, quitte l'église. Quitte l'église, et il quitte l'église avec ces mots. Il n'y a pas l'amour. Authentique, il n'y a pas l'amour dans l'église. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que quelqu'un part avec ce genre de discours, la personne est coupable d'un comportement païen au milieu de ses frères. Plusieurs fois, les gens nous ont dépouillés dans l'église. Et puis un jour, notre père a pris la parole en public et il a donné une direction parce que les gens ne s'accordaient pas. On vient voir le pasteur au moment du problème, pas au moment où on décide de se mettre ensemble. Vous faites des affaires ensemble, tu ne viens pas me voir pour me dire « Ah, évêque, j'ai à cœur de faire une affaire avec tel frère. » Même si je ne vais pas te dire la vie du frère, je peux au moins te dire non. C'est mon rôle de protéger sa vie, son intimité. Mais c'est aussi mon rôle de t'aider, toi, à ne pas rentrer dans quelque chose où tu seras perdant. Donc, c'est mon rôle, et c'est arrivé plusieurs fois. Parfois même, quelqu'un me voit, et la sœur, les yeux qui brillent, qui brillent, qui brillent. Elle me dit, non, le frère tel est venu me voir. Et il m'a dit que non, vraiment, c'est moi qui veux épouser. Dans mon cœur, je me dis, mais le frère, il y a une autre sœur qui est venue me voir aussi pour me dire que le frère a dit qu'il va l'épouser. Et puis, il y a une autre sœur aussi qui est venue. Donc là, je dis à la sœur, c'est pas bon. Ma fille, c'est pas bon. Mais je peux pas dire, c'est pas mon rôle. Ma fille, c'est pas bon. Et elle se fâche. Oh non, le pasteur ne veut pas que je me marie. Quelques temps plus tard, elle revient me voir pour me dire, oh, c'est un diable. Oh, pasteur, c'est un diable. Je voulais te protéger de l'enfer, mais tu n'as pas voulu. Donc l'évêque général prend la parole, un dimanche à l'église, on est au centre-ville, et il interdit les prêts dans l'église. Et je n'ai plus de prêts. Si tu veux donner, tu es en capacité d'aider, aide. Plus de prêts. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que ça emmène les prêts avec intérêt, que ça emmène une atmosphère dans l'église qui n'est pas saine. Voici comment nous devons régler les conflits entre nous, même Matthieu 18, 15 à 17, et c'est fini. Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre plus de temps. J'interpréterai le texte et... Lisons ensemble, s'il vous plaît, 1, 2, 3. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux. Verset 17. Qu'il soit pour toi comme un païen. Voici le modèle pour la gestion des crises, des relations dans la communauté qui est la nôtre. Le modèle. Si la sœur Pascal m'a offensé, je me suis senti offensé par la sœur Pascal. C'est plus juste de dire ça. Lève-toi d'abord, ma fille. Lève-toi d'abord, s'il te plaît. J'entends dire, du moins, non, ça c'est pas joli. Je viens à l'église, je la salue, elle ne me salue pas. Une fois, deux fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Puis dans le contexte, maintenant je vois qu'elle me toise. Voici ce que la Bible dit. Au lieu d'aller parler au révérend Guy. Tu as vu que Pascal toise des gens maintenant. Et depuis on est à l'église, elle se prend pour qui la petite là ? Parce qu'elle a un travail, parce que maintenant elle a une voiture, parce que elle se prend maintenant. Tu as vu même comment elle marche ? Ça là. Ça s'appelle le Congo, ça. Je ne sais pas pourquoi on parle ça du Congo. Mais c'est le Gabo, ça. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon. On ne fait pas ça. Les chrétiens ne traitent pas leurs problèmes comme ça. Je ne vais pas parler à mon frère. Je n'ai pas parlé à ma soeur. Je vais directement parler à Pascal. Ma soeur, tu as quoi contre moi? Non, tu dis rien. Mais depuis, tu me toises. Je te salue, tu ne réponds pas. Normalement, Ça reste entre nous. Ça se règle entre nous. Maintenant, Pascal, je lui fais la remarque. Elle me dit, non, de toutes les façons, va là-bas. Ah, là, la Bible dit, va prendre. Viens. Pascal fait ça, 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 ça. J'ai essayé de lui parler, il n'écoute pas. Allons. Pascal, la dernière fois je t'ai parlé, j'ai emmené un témoin. La dernière fois je t'ai parlé, et puis tu ne veux pas écouter. Non, 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 non. Lui, il ne peut pas directement venir et être de mon côté. C'est ça votre problème. Il ne peut pas venir l'accuser, l'acculer. Il doit entendre sa version. Vous m'entendez, vous m'entendez. Et à ce moment, on parle, chacun donne la version, et lui qui doit être l'homme sage, doit pouvoir dire, ah, Pascal, là, tu as mal agi. Et si j'ai mal agi, il doit pouvoir me dire devant Pascal, ah, mon évêque, là, c'est bad. Vous m'entendez, vous m'entendez. Là, je parle des frères, parce que les autorités, c'est autre chose. Je parle des frères. Ils ne nous écoutent pas, elles ne nous écoutent pas. La Bible dit qu'on l'emmène devant l'église. L'emmener devant l'église, c'est quoi? C'est pas la prendre et la mettre sur les réseaux, c'est aller voir l'autorité de l'église. Je vais voir mon pasteur exécutif, je dis, révérend Wills, moi, j'ai un problème. Voilà comment vous parlez même. Je vais utiliser vos mots. Ta fidèle, ta fille chérie que tu prends dans les bras tous les jours là. Comme maintenant, tu sais, elle ton enfant. Que tu n'as qu'elle comme enfant. Que nous, tu nous as mis aux oubliettes. Que ta fille chérie là. Que elle traite mal les gens dans l'église. Elle parle mal aux gens dans l'église. Que elle a un mauvais comportement. Elle est exécrable. Vos gens là. Voilà. Donc quand je lui dis ça. Lui, normalement, qui est le pasteur exécutif, c'est lui l'église, parce qu'il représente par autorité délégué. Quelle église? Ici, on a le pasteur exécutif, on a l'évêque, et on a l'évêque général. Donc, normalement, même si lui, il essaie de régler, il n'arrive pas, il vient vers moi. Je n'arrive pas, on va chez l'évêque général. Mais normalement, une fois qu'elle a été confrontée à l'église, vous me suivez ou pas? Au leadership de l'église, et qu'elle ne se redresse pas. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, pour moi qui ai le différend avec elle, après avoir fait tout ça, la Bible dit que moi je dois la considérer comme une païenne. Je vais vous dire ça plus simplement. Ce n'est pas ma sœur. Parce que si elle ne respecte pas, même au-delà de moi, son frère, l'autorité de la famille, c'est que ce n'est pas ma sœur. Et je vais vous dire la vérité, il y a des gens qui sont dans l'église qui ne sont pas vos frères. Que Dieu m'aide. Parce que normalement, dans une famille normalement constituée, quand le père parle, on s'aligne. Mais quelqu'un qui n'écoute pas la voix du père n'est pas membre de la famille. C'est un invité, c'est un sympathisant. Et il y a de la place dans l'église pour les sympathisants. Mais si le père, la dernière autorité de l'église, parle et donne une instruction, et que la personne ne se redresse pas à la voix du père, il y a un problème. Donc, moi, ce que je sais, c'est qu'elle, ce n'est pas ma sœur. Ok. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, je vais prendre son nom et le répandre. Je prends mon recul. Je garde une attitude chrétienne. L'attitude chrétienne, c'est que même avec les gens du travail, tu sais qu'ils te mettent des bâtons dans les roues, tu restes poli. Parce que tu as une bonne éducation. Tu restes courtois. Mais à aucun moment, vous allez me voir chercher à lui lancer des choses ou chercher à gaspiller son nom dans l'église.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.